Bonsoir, bienvenue dans ces classiques de demain. Une émission que nous allons passer en compagnie d'un invité, qui est un jeune compositeur flamand. Il s'appelle Stéphane Prinz. Et si nous l'invitons aujourd'hui, c'est parce qu'il sera très bientôt, dimanche prochain, donc le 6 juin, à 11h30, à l'Espace Senghor, pour un focus. Focus, vous connaissez cette formule qui est consacrée donc à de jeunes compositeurs de chez nous, avec la présence du compositeur et puis d'autres interprètes, souvent l'ensemble Naandove. Ici, ce sont des complices de ce compositeur qui s'appelle donc Stéphane Prinz. Et ses complices seront Mathias Kohl et Peter Matthiessen à la guitare électrique et au violoncelle, respectivement. Stéphane Prinz, qui lui sera à l'électronique live. Deux pièces seront jouées dans le cadre de ce focus, jouées et commentées, bien sûr, par le compositeur Stéphane Prinz. Alors, premièrement, il s'agit de Not I, qui est une pièce pour guitare et électronique. Et ensuite, c'est le titre de la pièce, ensuite, une œuvre pour violoncelle seule, donc sans électronique cette fois. Alors, pour nous parler non seulement de ces pièces, mais aussi de ce parcours, nous allons retrouver tout de suite Stéphane Prinz, et puis nous aurons quand même l'occasion, à la fin de cette émission, de découvrir une nouveauté discographique consacrée à un compositeur que Stéphane Prinz affectionne.
Je m'appelle Stéphane Prinz.
Vous êtes originaire d'où ?
De Belgique, en fait. Je suis né à West-Vlaanderen, Kortrijk. Et j'ai vécu presque toute ma vie, pour le moment, à Anvers. J'ai vécu 4 ans ici à Bruxelles, quand j'étudiais l'ingénierie au VUB. Et après, j'ai vécu une année à Barcelone. Et après, je suis revenu à Anvers pour faire le conservatoire là-bas.
Donc vous avez commencé, Stéphane Prinz, des études universitaires d'ingénieur avant de venir à la musique, ou c'était simultané ?
C'était simultané. En fait, j'ai commencé les deux ensemble, mais ce n'était pas possible de faire ça. En fait, je voulais jouer du piano au début. Donc j'ai commencé avec les études de piano au conservatoire. Et donc j'ai arrêté le conservatoire pour finir les études d'ingénierie. Et après ça, l'amour pour la musique était tellement grande que finalement j'ai repris la musique. Et bon, voilà, c'est ça, l'histoire, la petite histoire.
Alors, quand vous êtes entré ici dans le bureau, il y a une chose qui vous a frappé tout de suite. C'est vrai que c'était bien en évidence sur la table. Un livre d'entretien de Célestin de Liège avec Pierre Boulez, avec la photo de Pierre Boulez. Donc, Boulez vous a accueilli dans ce bureau.
Oui, un peu macho, mais bon.
Mais bon, voilà, les bras croisés, en conquérant, en bon conquérant qu'il a été, en tout cas. Et je crois que vous avez, voilà, une histoire peut-être personnelle. En tout cas, il y est pour quelque chose dans votre vocation de compositeur.
Oui, voilà, j'ai aimé mettre mon café sur sa tête ici, sur le livre. Non, j'ai eu une relation amour-haine avec lui. Quand j'étais petit, je jouais le piano. Et c'était assez naturel pour moi de composer des pièces pour moi-même, pour jouer. Et j'ai arrêté ça assez rapidement parce que bon, je commençais à connaître les grands compositeurs et je pensais, bon, qu'est-ce que je fais moi à côté d'eux ? Donc j'ai arrêté ça et je me suis concentré sur jouer. Et à un certain point, je pense que j'étais 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça, je commençais de nouveau à composer. Parce que j'aimais beaucoup de la musique de Boulez. En fait, le coup de foudre, c'était Répond. Pour moi, c'était une pièce qui m'a ouvert les yeux. J'ai commencé à lire beaucoup sur Pierre Boulez, beaucoup de textes de lui aussi. Je ne sais pas, il y avait une autorité dans les mots qu'il écrivait qui, d'une manière, m'ont impressionné tellement, mais d'autre manière, m'ont paralysé totalement aussi. Et c'était presque impossible, après avoir lu ces mots, de composer pour moi. Parce que j'avais l'impression que tout ce qu'il disait, c'était vrai et c'était la seule vérité possible. Et comme moi, je ne composais pas de la manière qu'il propose ou selon les pensées qu'il avait, que je ne trouvais pas de solution pour composer. Et donc, je l'ai laissé pour le reprendre le moment que je suis commencé avec l'improvisation libre. À ce moment, pour moi, c'était quelques ans après. Par hasard, j'ai connu à ce moment Thomas Olbrechts, avec qui je joue encore beaucoup. Et on a commencé d'improviser. Et pour moi, c'était une libération totale. Et aussi une libération de ses lois et les mots de Boulez. Tout ce qu'il disait qui est... Bon, la musique doit être ça. Ici, c'est pas ça. C'est pas une musique qui vaut la peine d'être jouée. Et voilà. Ça, c'est mon... mon histoire, amour, haine avec Pierre Boulez. Comme jeune, comment j'ai découvert Boulez en jouant le piano et j'étais amoureux de Prokofiev et après je connaissais Shostakovich et on commence à lire beaucoup sur la musique et j'ai connu Schoenberg et Alban Berg et bon, les pas à Boulez ne sont pas tellement grands et donc à ce moment j'ai connu Boulez et un peu suivant l'histoire de la musique et maintenant bien sûr, bon, Boulez il n'est pas encore mort, heureusement. Mais d'une manière ou d'autre, il est déjà parti de l'histoire. Donc, pour moi, c'est une histoire passée. Oui. Bon, c'est pas passé, mais je veux dire, il y a beaucoup d'autres choses après lui maintenant qui, pour moi, sont plus importantes pour la musique que j'écris moi ou que je joue.
Alors, avant de venir à votre musique vraiment, oui, donc vous avez découvert Boulez, mais dans le répertoire, il y avait d'autres choses. Je parle de piano, là, les études de Ligeti, voilà. et d'autres choses qui pointent vers d'autres directions.
Absolument.
Tout de même.
En fait, j'ai découvert Ligeti après Boulez. Et oui, pour moi aussi, c'était une découverte très importante parce que ça me montrait qu'il y avait des possibilités totalement différentes de faire de la musique.
Et donc, votre musique, vous commencez votre catalogue, entre guillemets, je ne sais pas si vous mettez des numéros d'opus Stéphane Prince, je ne pense pas, ça ne se fait plus tellement, hein. Peut-être certains le font. Mais donc, à partir de quel moment vous avez trouvé votre voix? Est-ce que c'est vraiment à ce moment où vous avez commencé à faire de l'impro et que c'est ça qui caractérise au premier chef votre musique?
J'aimerais pouvoir dire que j'ai rencontré mon voix déjà. Je ne sais pas si c'est le cas. De toute manière, c'est ce que je cherche. Et je pense, parfois pour rire, je dis que mon opus numéro uno, c'est une pièce que j'ai écrite en 2004 pour piano et knickers, des boules, des billes. Voilà, piano et billes. Pour moi, c'était un peu le début de quelque chose, d'une histoire. Je pense que j'ai d'autres débuts pour d'autres histoires aussi. Par exemple, la pièce qu'on va jouer à l'espace Sangor pour guitare électrique et live électronique, Not I, c'est un autre début, je pense, pour un autre rhizome, je ne sais pas comment dire. Et en fait, je ne sais pas, l'incorporation de l'improvisation m'a marqué tout à fait. Ça a à voir aussi avec l'aspect physique de jouer un instrument, parce que dans l'improvisation, il y a beaucoup de choses. Bon, comme on n'a pas une partition, il y a une autre manière de se mémoriser ou une autre mémoire qui devient active. Et c'est plus une mémoire physique ou corporelle. Et je pense pour moi, c'est vraiment important dans la musique. En fait, j'aime aussi, après un concert, être mouillé. Et je pense que la musique que j'écris, c'est aussi beaucoup de fois très physique. Et il y a des points sur mon chemin qui m'ont directionné vers un autre point. Et il y a des points que je peux maintenant dire, voilà, ces points ont été importants. Et par exemple, cette pièce étude intérieure pour piano et billes, c'est comme un début pour moi. Et après, il y avait d'autres points, mais par exemple, Not I, c'est aussi un point important pour moi parce que pour la première fois, dans cette pièce qui est de 2007, j'ai eu la sensation que l'incorporation de live électronique dans une pièce a marché et a vraiment eu une importance structurelle qui m'a donné beaucoup d'idées et beaucoup de directions. Comme j'ai dit avant, l'aspect physique, c'est très important pour moi de faire de la musique. C'est un des aspects qui fait que faire de la musique, c'est quelque chose de très humain. Et donc, pour moi, la confrontation de ce phénomène humain, de faire de la musique, avec quelque chose technologique, c'est une tension très intéressante, je pense. Dans la société qu'on vit, ça, c'est une des choses plus grandes ou plus intéressantes ou plus fortes. Ça sont des choses qu'on ne se rend plus compte, qu'on est 3, 4, 5 heures par jour derrière l'ordinateur et qu'on est addicted sur les mails, les reçoirs. Et maintenant, tout le monde a un smartphone avec... On ne pense plus à ça, mais c'est incroyable. C'est la force de la technologie, la manière que la technologie s'est intégrée dans notre vie. C'est une chose incroyable qui a beaucoup d'implications, absolument. Et donc pour moi, et je pense que maintenant, je peux dire que ma musique que j'écris maintenant est vraiment sur ça, sur la confrontation de technologie et l'aspect humain de oui, l'aspect humain, d'être humain et de jouer de la musique. Mais, et bon, par exemple, dans cette pièce, Not I, pour guitare électrique et live electronics, je cherche à mettre le spectateur et le guitariste aussi sur le mal-pied parce que je veux jouer avec les perspectives. Est-ce que ce qu'on entend, c'est le guitariste ou c'est le live électronique? Et donc, j'ai dessiné un système pour pouvoir structurer ça musicalement, mais vraiment sur cette idée de jouer avec la manière de changer les perspectives par la technologie.
Donc vous développez vous-même les programmes pour faire votre partie électronique? C'est peut-être votre côté ingénieur qui fait ça.
Oui, je pense aussi que ma fascination pour ça, pour la technologie, vient de, d'être ingénieur et de, d'avoir parcouru ce chemin aussi. En fait, quand j'avais fini mes études d'ingénierie et j'ai commencé à étudier au conservatoire, j'ai commencé avec le piano et la composition en même temps. Et après la première année, j'ai décidé de suivre seulement avec la composition. Et je pense à ce moment, j'ai connu un compositeur flamand, Serge Verstockt, qui pour moi était quelqu'un de très important et qui m'a dit à un certain moment, mais Stéphane, tu as une histoire d'ingénieur et maintenant tu composes. Ça, c'est une combinaison très spéciale et je crois que tu dois penser à ça. Et qu'est-ce que tu peux faire avec ça et pourquoi ces deux choses? Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à penser, et parce que Serge m'a aussi conseillé ça, je suis allé à La Haye pour voir au conservatoire là-bas qu'est-ce qu'ils font. Et il y a une éducation très intéressante là-bas, sonologie. Et donc, j'ai suivi les cours là-bas pendant une année. Là-bas, j'ai commencé à penser à utiliser les choses technologiques et j'ai commencé à lire beaucoup sur ça. Et en fait, je suis très fasciné aussi sur la philosophie de la technologie. Et donc maintenant, les pièces du puzzle s'unissent d'une manière ou d'autre. Mais bon, pour moi, c'était un chemin long et j'ai eu beaucoup de chance à pouvoir connaître des gens qui m'ont poussé au bon moment.
Et donc Serge Verstockt, c'est Champ d'Action. Hein. Voilà. Et donc vous êtes soutenu par Champ d'Action parce que je crois qu'il coach pas mal de jeunes comme ça, compositeurs.
Champ d'Action, c'est un ensemble, mais c'est aussi, comme tu dis, une espèce de maison qui donne beaucoup de chance aux interprètes et compositeurs jeunes. C'est eux qui m'ont donné les premières possibilité d'être joué et d'être joué par des musiciens formidables qui sont vraiment spécialisés sur la musique contemporaine. Oui, comme ça, j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de possibilités. Et oui, je travaille encore avec eux. Et il y a quelques projets au futur que je vais faire avec eux. Et je travaille pas seulement comme compositeur, mais aussi comme interprète avec eux. Je joue alors piano préparé ou les lives électroniques que je fais. Et donc, oui, j'ai une relation forte avec eux et je suis content de ça.
Thank you.
Ça dit, vous n'avez pas que des interprètes spécialisés, mais par contre de grande renommée. Alors il y a quand même cette pièce pour violoncelle qui était jouée par Jean-Guyenne Queyras, qui est une super grande star internationale. Donc cette pièce qui d'ailleurs va être jouée lors du Focus au Sangor. Je ne sais pas si c'est toujours la même version qui va être jouée. Mais donc peut-être d'abord parler de cette relation avec Jean-Guyenne Queyras, qui est un peu intrigante.
Oui, voilà. En fait, il y a une connexion avec Pierre Boulez aussi, parce que c'était le premier celliste de l'ensemble intercontemporain. Et en plus, il a reçu un prix, le prix Glenn Gould à Canada, qui est un prix important apparemment. Et c'était Pierre Boulez qui a proposé de le donner au Jean-Guyenne Queyras. Donc, il est partout. Mais bon.
On a retourné le livre.
Oui, c'était comment... En fait, au Belloc, le concert Vereniging à Gand, à un certain moment, il y a 2 ans, je pense, il y avait un marathon de Jean-Guyenne Queyras. Il allait jouer les 6 suites de Bach. Et le Belloc de Gent, à ce moment, a eu l'idée fantastique de donner la possibilité aux 2 compositeurs d'écrire quelque chose pour Jean-Guyenne Queyras. Je pense que c'était une idée de lui parce qu'il l'avait déjà fait avec d'autres compositeurs aussi. Et donc, il y avait une sorte de compétition et un jury. Et finalement, on a choisi Dan Janssens et moi pour faire une composition pour lui. Et donc, voilà, je l'ai fait. Et en fait, j'étais un petit peu retardé avec donner la partition. Mais c'était assez... C'était bon. Mais je me rappelle que c'était le jour du concert même. On jouait le concert à 8h et donc, je pense, à 2h ou quelque chose, il y avait la première rencontre avec Jean-Guyenne, qui est... C'est une personnalité fantastique, très amicale, très... pas hautain du tout, vraiment très sympa. Et donc, je me rappelle que Dan et moi étaient là-bas un peu nerveux parce que, le grand Jean-Guyenne. Donc, il avait les partitions et on avait, je ne sais pas, une heure et demie de jouer un petit peu. Et bon, on a joué, mais c'était, je demandais des choses pas vraiment standard et donc il avait besoin de, c'était pas totalement clair pour lui dans la partition. Et donc, on a travaillé un petit peu là-bas. J'ai même eu la possibilité de jouer moi-même sur son cello. Je ne joue pas du cello, mais les choses que je lui avais demandées, je pouvais jouer parfaitement parce que c'est vraiment pas la manière de jouer le cello, mais bon, c'est la pièce. Et donc, il a pu étudier un petit peu la pièce, mais bon, comme c'est quelqu'un avec un agenda tellement... Il y a tellement de concerts et bien sûr, les suites de Bach, c'était la chose la plus importante de ce concert pour lui, je pense. Peut-être pas, mais... donc, il n'avait pas tellement de temps pour la pièce. Et donc, finalement, c'était fantastique d'être joué par lui, bien sûr, mais ce n'était pas 100% la pièce que j'avais écrite. Bon, je travaille aussi beaucoup avec un autre ensemble, Nadar, un ensemble flamand. Et là-bas, il y a des musiciens, ce sont des jeunes, formidables aussi. Et par exemple, il y a Peter Mathensens, qui est un celliste formidable, qui va jouer la pièce maintenant, le dimanche. Et on a travaillé beaucoup sur cette pièce ensemble. Ça, c'est aussi un avantage de travailler très proche avec un ensemble. Comme ça, c'est pas de problème de lui dire « Ah bon, demain, est-ce que tu as du temps pour essayer des choses ?» Et bon, je vais à sa maison et on essaye des choses. Et ça, c'est fantastique. Il a étudié comme un fou sur la pièce. Et bon, en fait, la pièce maintenant, ce n'est plus la pièce que j'avais dans la tête quand Jean-Guy Inquera l'a jouée. Les deux versions ont ses charmes. Mais donc, Peter va le jouer le dimanche. Et bon, je suis très, très heureux de comment il le joue. Et c'est vraiment... C'est une pièce très physique aussi. Et je sais de lui qu'après... avoir joué la pièce qu'il est vraiment...
Mouillé,
oui, fatigué. Mais bon.
Et donc là, c'est une pièce pour violoncelle seule, donc pas d'électronique. Non. Mais par contre, je pense qu'il y a des sons qui pourraient faire penser à l'électronique dans la manière dont vous écrivez pour l'instrument. Donc, je crois que l'instrument est vraiment un corps sonore qui a toute son importance dans votre écriture. Hein.
Oui, absolument. En fait, j'ai écrit cette pièce après Not I, je pense. C'était la première pièce après Not I. Donc, j'avais travaillé beaucoup avec les électroniques avec Not I et avant aussi. Et voilà, il y avait la commande d'écrire quelque chose pour Jean-Guy Inquera. et sans électronique. Ça, c'était clair du début. Et je pensais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Parce que d'abord, ça va être confronté avec les suites de Bach. C'est pas vraiment une position luxueuse, ça. Et après, je dois le faire sans électronique. Et donc, j'ai cherché une manière de... Je pensais, bon, je peux fuir de Bach et je peux essayer de faire quelque chose totalement différent et pas me confronter avec lui. Mais je peux aussi chercher une confrontation et spécialement la confrontation avec la polyphonie monodique qui était tellement développée par lui. J'ai trouvé dans la manière de... utiliser les électroniques, une manière de pouvoir structurer une polyphonie physique dans cette pièce. C'est-à-dire, Bach, il utilisait des voix qui sont séparées dans le temps, mais de toute manière, on entend plusieurs voix. Ça, c'est la chose fantastique sur les suites. Et moi, j'ai essayé de faire la même chose, mais pas avec des voix, mais avec des manières de jouer, donc mais je parle vraiment physiquement, donc de faire des mélanges de manières de jouer physiquement pour pouvoir obtenir presque une polyphonie, mais pas vraiment une polyphonie qu'on suit comme une mélodie, mais d'une manière de traiter l'instrument. Une chose qui est très claire dans la pièce, c'est qu'il frappe beaucoup les cordes avec l'archet. C'est une voix, disons. L'autre voix, c'est par exemple la corde plus basse est encore désaccordée une octave. Donc c'est encore plus basse. Donc c'est vraiment une... Et ça donne, quand on le joue dans une manière spéciale, c'est presque la musique électronique aussi. Donc ça peut être une seconde voix.
Alors à propos de la physicalité de votre musique, vous avez également écrit une pièce qui s'appelle Fremde Körper, corps étrangers. Donc j'imagine qu'il doit aussi y avoir un rapport là.
Oui, absolument, absolument. En fait, maintenant, je suis en train d'écrire une deuxième pièce qui s'appelle Fremdkörper, avec le titre originel Fremdkörper 2. L'idée pour cette pièce est clairement liée avec, de nouveau, avec la technologie. Donc la technologie qui est d'une manière ou d'autre une intrusion dans la vie. Une bonne intrusion pour beaucoup de choses, mais aussi pour beaucoup de choses, une intrusion qu'on peut ou qu'on doit douter ou questionner. Voilà. En fait, Fremdkörper, c'est une amplification de l'idée de notre eye. En fait, ce que je fais avec notre eye, et c'est pour ça que c'était intéressant, où j'avais l'idée d'écrire pour guitare électrique, en plus que Mathias Kohle, qui est le dédicace de la pièce et qui le va jouer. Ce qui me fascinait avec la guitare électrique, c'est qu'on a la guitare électrique, c'est qu'un corps avec des cordes. Mais sans l'amplificateur, on n'a rien. Oh, presque rien. Presque rien. Donc la technologie est tout à fait inhérente à l'instrument même là-bas. Bon, avec un piano aussi, il y a aussi de la technologie, il y a les marteaux et tout ça, mais c'est une technologie de il y a 200-300 ans. Et l'électrique, c'est une autre, c'est une technologie tout proche. Et donc, pour moi, c'était intéressant d'avoir la guitare, qui est d'une manière ou d'autre une interface, comme un keyboard d'un laptop. Parce que sans le programme et les haut-parleurs, on n'a rien. Presque rien. Et c'est la même chose avec la guitare électrique. Et donc, on a besoin de l'amplificateur. Et comme il y a une ligne entre la guitare et l'amplificateur, une ligne électrique, on peut couper la ligne et on peut mettre un ordinateur Ertussen.
Oui, d'Ertussen. Entre les deux.
Entre les deux, voilà. C'est comme un black box qu'on met dedans. Et si on programme l'ordinateur d'une manière ou d'autre, qu'on peut, s'il y a des signaux du guitare, on peut choisir, avec un, si on le programme comme ça, si le signal va à l'amplificateur ou pas. Mmh. Et si le signal ne va pas à l'amplificateur, je peux dire, bon, je veux un autre son qui va à l'amplificateur, qui ressemble d'une manière ou d'autre, ou pas du tout, au son de guitare. Mais comme ça, on a un système qui permet de vraiment jouer avec le fait que parfois on voit le guitariste faire des choses et on entend totalement une autre chose, qui est aussi des sons de guitare qui sont transformés et tout ça. Mais c'est autre chose. Et ça change très vite, ou pas, ou...
Et vous manipulez en temps réel ? Je veux dire, vous êtes à l'ordinateur, au laptop, et vous faites ça en temps réel ?
Pour cette pièce, oui. Donc, en fait, ça commence presque comme un solo de guitare, avec des petites choses qui sont... qu'est-ce qui se passe là-bas ? Mais ce n'est pas vraiment clair. Et à la fin, c'est un duo, guitare et laptop. Et donc, il y a le chemin de solo vers duo. Oui, en fait, c'est ça pour moi qui était très intéressant, que la technologie peut... Et c'est comme ça dans la vie actuelle aussi, que la technologie vraiment... Parfois, on pense presque que la vie, c'est la vie sur l'Internet. Il y a Second Life. Donc, la technologie, parfois, donne l'impression que ça, c'est la vie. Et pas la vie qu'on voit sur la rue, là-bas. Et donc, pour moi, c'était le point de départ de Not I. Et avec Fremdkörper, j'ai amplifié ça. C'est pour 4 instruments, un guitare électrique, et flûte, cello et percussion. Et donc, chaque instrument a un amplificateur de guitare à côté. Et les sons, les instruments sont amplifiés et vont à l'ordinateur. Et l'ordinateur décide si ce son va à l'amplificateur ou pas. Et en fait, le système, c'est plus facile que Notary. C'est un autre système, mais c'est la même idée. Quand un instrument joue, il y a une sorte de détection dans l'ordinateur. Et quand il arrête de jouer, il y a une bande sonore que j'ai construite avant qui joue. Donc, on entend à l'amplificateur la bande. Et le moment que l'instrumentiste recommence à jouer, c'est coupé, c'est en pause. Et on entend l'amplification du son de l'instrument. Donc, comme ça, il y a aussi vraiment une infiltration de son électronique dans le son acoustique. Et dans cette pièce, j'ai cherché à avoir des relations différentes entre les deux. Et parfois, c'est tellement clair. Par exemple, au début, j'ai cherché une relation très claire entre... est très différente entre les sons acoustiques et les sons électroniques. Mais ça change, et à un certain moment, c'est impossible presque à décider d'où vient quel son. Et voilà. pour le moment, je suis en train d'écrire une deuxième pièce. Je pense de faire un cycle qui s'appelle Fremdkörper, autour de la même idée, qui est aussi pour quatre instruments, pour un ensemble israélien. Et plus ou moins la même idée, une autre manière de le travailler, mais avec la même idée.
Alors Stéphane Prince, il y a donc ce focus au Sangor, mais il y a d'autres choses intéressantes. Et même sur le plan international, vous venez de mentionner un ensemble israélien. Et je crois que vous allez aller là-bas pour cette pièce précisément, sans doute.
Oui, c'est vrai. Dans un mois, je vais à Israël pour une semaine, un peu plus. Je suis invité là-bas pour des masterclass, pour suivre des masterclass avec des compositeurs très intéressants. Chaya Chernovin, par exemple, et Steven Tagazuki, ce sont des compositeurs que je trouve intéressants. Et de pouvoir travailler en même temps avec l'ensemble Nickel, cet ensemble israélien, sur ma pièce, parce qu'à juillet, on va faire la première officielle à Darmstadt.
Vous avez été sélectionné à Darmstadt. Vous pouvez nous expliquer, Stéphane Prince, c'est un prix que vous avez reçu?
Oui, en fait, j'étais tellement heureux et c'était une surprise totale d'avoir reçu ça s'appelle Staubach Awards. Donc, en fait, il y a deux prix à Darmstadt qu'on donne. Il y a un prix, le prix plus connu là-bas, qui s'appelle Kreinsteiner Preis, qui est donné après le Ferienkurse, le Summer Course. Et je pense que c'est un compositeur et un interprète qui peut recevoir ce prix. Mais à 2008, je pense, on a commencé un second prix qui s'appelle Staubach Award. Et c'est pour... On donne le prix avant le Darmstadt Ferienkurse. Et comme compositeur, tu peux envoyer tes pièces. Et il y a un jury international qui choisit 5 compositeurs ou 5 pièces pour donner ce prix. Et quand on reçoit le prix, on reçoit aussi la possibilité d'écrire une commande pour un des ensembles qui sont invités comme ensemble résidence. En mon cas, c'est le Nickel Ensemble qui vient là-bas et qui va donc faire la première de cette pièce. Donc, c'est fantastique. Ce sont des musiciens fantastiques aussi.
Thank you. Au fait, vous auriez pu faire l'IRCAM. Vous avez été à La Haye, vous avez dit... Vous avez pensé à l'IRCAM ?
Oui, oui, absolument. En fait, j'ai même fait une sollicitation de pouvoir faire les cours. Il ne m'avait pas accepté. Et en fait, je suis très heureux que ça s'est passé comme ça, parce qu'à La Haye, bon, IRCAM, je suis sûr que c'est très intéressant de pouvoir étudier là-bas. Mais maintenant, et ça va peut-être, ça sent peut-être un peu arrogant ce que je vais dire, mais j'ai beaucoup de fois de l'impression, quand j'écoute la musique qui est écrite avec la collaboration de l'IRCAM, que je l'entends, que c'est l'IRCAM Touch. Et donc à La Haye, quand j'étais là-bas, il y avait... C'est vraiment anarchiste là-bas. C'est très drôle, oui. Il y avait... presque que des compositeurs ou des musiciens, des interprètes de l'étranger. Oui. Et avec des backgrounds très différents. Et comme ça, tout à coup, la musique classique n'est plus la seule musique contemporaine. Il y a aussi de la musique électronique, il y a aussi du noise, il y a du rock avant-garde. Et tous ces gens viennent là-bas pour apprendre des choses... de technologie aussi. Et donc, ça m'a ouvert aussi les yeux. Et il y a beaucoup d'influences qui sont là-bas, qui se mêlent, qui se confrontent, qui se... Et je pense que, par exemple, à l'IRCAM, c'est moins le cas. Bon, je n'y suis jamais allé, mais je suis content que j'étais à La Haye. Mm-hmm. Ouais. Récemment, ma musique a été... influencé, je pense, par le noise, mais pas vraiment pour le noise, mais je pense que, bon, quand on joue de la musique, par exemple, un enfant qui n'a jamais joué le piano, il voit le piano, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas jouer les touches, Il va ouvrir le piano et waouh, c'est quoi ça? Et il frappe les cordes et il met les choses dedans. Et j'essaie d'être enfant aussi. Et comme artiste et compositeur, je pense que c'est important, comme humaine aussi. Quand j'improvise, par exemple, je fais ça, j'utilise tout le piano. Et quand il y a les gestes physiques, parfois les gestes sont très brutaux ou très, très, très grands. Et le résultat sonore est très fort et très physique aussi. Et ça, on peut dire, bon, c'est du noise. Et je pense que combine...
Lachenmann, c'est aussi du noise,
absolument,
alors.
Absolument, oui. En fait, Lachenmann, pour moi, c'est un compositeur très, très important pour mon évolution. Donc, je pense que la manière d'utiliser le noise pour moi, ou j'aime pas vraiment le mot en fait, noise, parce que ça implique presque quelque chose sans raison ou vrijblijvend en néerlandais, je ne sais pas comment dire en français. En fait, avec noise, je veux dire un son parasitaire presque, ou un son qui n'est pas voulu ou standardisé. En fait, quand je commençais à écrire la musique, je pense que, bon, au conservatoire, je pense que ma musique était très, très intimiste, avec des sons petits et tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais peut-être ça a à voir avec ma personnalité aussi, ou un changement dedans, je ne sais pas. Mais maintenant, ma musique, c'est plus à haute voix, je pense. Un noise plus... De toute manière, j'écoute beaucoup la musique improvisée, très, très physique, très forte. Par exemple, Evan Parker, j'aime tellement. Mais il est fou. C'est incroyable comment il joue. C'est intéressant, je pense, d'essayer d'utiliser les instruments acoustiques pour chercher une zone où c'est plus clair c'est quoi, où c'est clair. Mais la confrontation, c'est intéressant, je pense, intéressante. Oui, Dan Jansen, c'est un compositeur jeune flamand aussi. J'ai apporté une pièce de lui aussi parce que je pense que c'est un bon compositeur et je voulais partager ça aussi avec vous. Et j'ai pensé beaucoup parce qu'il y avait tellement de choses que je voulais apporter. Fred Van Hove, le pianiste, l'improvisateur d'Anvers, qui est connu partout, mais pas en Belgique. Il joue très physiquement aussi. Et j'ai apporté une pièce, Ventriloquium, qui ça s'appelle, une pièce que j'ai écrite pour Champ d'Action et pour Collectif Réflexible. J'ai pas encore parlé de Collectif Réflexible, oui. Mais pour moi, c'est très important aussi, ce collectif. En fait, le collectif s'est formé de Thomas Olbrechts, de qui j'ai déjà parlé. C'était le premier que j'ai connu et avec qui j'ai fait l'improvisation. Donc, il joue le saxophone. Joachim De Villet joue trompette. Et moi, je joue... au début, je jouais le piano dedans. Mais maintenant, c'est électronique. Pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration et d'oxygène artistique. Et donc, j'ai écrit une pièce pour la combination de deux. Donc, le Champ d'Action et les collectifs réflexibles. Parce que je suis très fasciné par l'improvisation. Et je voulais combiner les deux d'une manière intéressante ou structurelle. Dans les années 60 ou 70, il y avait beaucoup de compositeurs qui voulaient faire les deux ou utiliser l'improvisation ou intégrer l'improvisation. Et il y a beaucoup de compositeurs qui ont fait des choses très intéressantes, mais il y avait aussi beaucoup de choses que je pensais, bon, c'est pas le meilleur des deux mondes, mais c'est le pire des deux mondes d'une manière ou d'autre. Et donc, je ne sais pas si c'est mieux la pièce mienne. Mais de toute manière, j'ai essayé d'encontrer une manière d'intégrer les deux. Et j'ai apporté ça. J'ai apporté un duo que j'ai joué avec Richard Barrett, le compositeur, mais il fait beaucoup d'électronique aussi, beaucoup d'improvisation. Et c'est une personne importante pour moi aussi, lui. Sa manière de confronter la musique ou de penser sur la musique... Pour moi, c'est très, très inspirant aussi. On a fait un projet ensemble et on a eu l'occasion d'enregistrer des choses ensemble, donc deux laptops. Et en fait, en novembre, on est en résidence à Amsterdam pour enregistrer pendant une semaine en duo parce qu'on veut faire un CD en duo aussi.
Comme annoncé, nous allons terminer cette émission après avoir découvert l'œuvre et l'univers de ce jeune compositeur flamand qui s'appelle Stéphane Prince et qui sera donc l'invité de l'espace Sangor dans le cadre d'un focus jeune compositeur ce dimanche 6 juin à 11h30. Nous allons donc, comme promis, terminer avec une nouveauté discographique.